tranche de vie, une émission proposée par JF.
Auditeur de tranche de vie, je suis aujourd'hui avec quelqu'un qui va nous parler de sa passion et non pas de son métier, qui a été, qu'elle a exercé sans doute avec passion aussi, qui était de celui de professeur de chimie, mais elle va nous parler de sa passion qui est la plongée. Et cette passion l'a entraînée aux quatre coins du monde, et elle va nous en parler maintenant. Annie, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand vous pratiquez la plongée ?
Je pratique la plongée depuis environ 15 à 20 ans. J'ai démarré assez tard, à l'âge de 50 ans, par goût, vraiment. J'avais envie, je rêvais. Je rêvais d'aller sous l'eau, d'aller en trois dimensions, mais je me suis rendu compte après que c'était ça, le principal intérêt, d'être dans trois dimensions et d'aller partout. Et donc, j'ai démarré assez tard.
Et vous avez démarré dans quel endroit, comment, dans quelles circonstances ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos débuts de plongeuse ?
Alors, mon début de plongée, ça a été déjà une première fois avec palme, masque et tuba à l'île d'Oléron, dans une eau froide. Et là, j'ai été fascinée parce que je voyais, mais vraiment complètement fascinée. Et un an après, il s'est trouvé que je pouvais aller en Australie. Et là, j'ai décidé de m'inscrire dans un club de plongée sur Orsay, sur l'université d'Orsay. Il y avait un club et je me suis inscrite dans ce club. Et je conseille à tout le monde, d'ailleurs, de passer par un club pour faire de la plongée parce que c'est une activité qui n'est pas anodine.
Alors, en Australie, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle région vous avez plongé ?
Alors, en Australie, c'est sur la côte est, c'est ce qu'on appelle la barrière de corail, c'est-à-dire c'est une barrière qui fait plusieurs milliers de kilomètres, qui est que du corail, un grand, un immense, un énorme lagon, et qui sépare l'Australie vraiment de l'océan, et dans lequel bon nombre de navigateurs, d'ailleurs, ont cogné leurs bateaux et ont fait des naufrages.
Alors, c'est cette grande barrière de corail, c'est-à-dire qui ourle l'Australie à l'est de cette île continent, et c'est là que vous avez plongé. Mais alors, il doit y avoir des sites innombrables de plongée dans cet endroit qui est si grand.
Tout à fait. Il y a pratiquement, on pourrait faire 2000 km de plongée. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil. La plongée est un peu aménagée, donc on ne va pas n'importe où. Je suis allée dans des endroits absolument paradisiaques, une île qui s'appelle Lizard Island, l'île du lézard, et qui est absolument extraordinaire. Et j'ai commencé là, et toujours en palme masque tuba, parce qu'à ce moment-là, là aussi, je ne plongeais pas encore à ce moment-là. Toute première fois, je ne plongeais pas.
Alors, comment est-ce que vous êtes venu à la plongée avec bouteille ?
Bien, je suis venu parce que, heureusement, que dans l'université où j'exerçais, il y avait un club de plongée. Donc, j'ai eu l'idée de m'inscrire là. Et mes premières plongées, ça a été vraiment en Bretagne, dans des parcs à huîtres, où on n'y voyait rien, avec une eau froide et plein de courants. Et malgré tout, j'ai trouvé ça extraordinaire de descendre sous l'eau. Donc, j'ai continué comme ça, mais j'ai eu mes premiers diplômes dans des conditions qui n'étaient pas très faciles, mais qui m'ont fasciné, qui m'ont plu.
Alors, là, vous êtes en train de nous dire que la plongée, c'est quelque chose qui s'apprend, ça prend du temps, et on devient un plongeur plus ou moins qualifié en franchissant un certain nombre d'étapes qui sont comme autant de grades, par exemple, dans certains sports.
Oui, tout à fait. Je trouve qu'il faut passer par ces grades, il faut passer par des écoles de plongée pour vraiment apprendre. Ce n'est pas une activité anodine. Il faut contrôler sa respiration, ses remontées. Il faut voir qu'on dissout de l'azote dans son corps, que cet azote repart sous forme de bulles, que ces bulles sont d'autant plus grosses et vont aller dans le cerveau qu'on va remonter plus vite. Donc, il faut apprendre tout ça. Je ne dis pas qu'il faut avoir peur de la plongée. Je dis que c'est un apprentissage et que cet apprentissage passe par des niveaux, des paliers et on passe effectivement des petits examens pour ça, pour apprendre.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez vu, par exemple, sur la grande barrière de corallité du spectacle, concrètement, à la fois des coraux, bien entendu, avec toutes leurs formes si variées, et puis de la faune?
Alors, au niveau des coraux sur la barrière de corail, c'est fantastique, quoi, parce qu'il y a toutes les formes, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les. Il y a, et vous en trouvez à toutes, pas toutes les profondeurs, parce que le corail, quand même, va pas trop profond. Quand on le trouve profond, c'est qu'en fait, il s'est formé profondément et que la mer a monté. Et justement, sur la barrière de corail, j'ai pas trouvé de coraux très, très profonds. Après ça, il y a les coquillages. En barrière de corail, ce qu'on appelle les bénitiers. Bon, tout le monde connaît la forme d'un bénitier. Il y a ces énormes bénitiers, mais ils sont plus grands que ma palme, qui sont extraordinaires. Alors vous les chatouillez avec votre palme, et vous les voyez se refermer. Il y a une ouverture, une opercule qui et le coquillage se referme et vous voyez l'eau sortir par cette ouverture. Et ça, c'est quand même un spectacle amusant, quoi. Donc, voilà.
C'est vrai ce qu'on raconte sur les bénitiers, ces histoires de plongeurs qui ont mis leurs mains dans l'ouverture du bénitier ou leurs pieds, puis qui sont restés coincés ensuite.
Là, j'y crois pas beaucoup parce que, vous savez, l'eau offre une résistance. C'est-à-dire que quand votre bénitier se referme, ce que j'ai vu, moi j'ai mis ma palme hein, pour le faire refermer, il se referme très doucement parce qu'il faut qu'il évacue l'eau et que l'eau, ben, il y a une résistance, donc ça s'évacue pas instantanément. Donc pour y laisser la main, il faut vraiment le faire exprès et regarder ailleurs, quoi.
En dehors des bénitiers qui ne sont pas par nature très mobiles, qu'est-ce que vous avez vu? Quels sont les poissons ou d'autres espèces vivantes qui vous ont vraiment intéressé et surprise?
Alors, sur la barrière de corail, vous voyez tous les poissons de toutes les couleurs qu'on retrouve après dans tous les aquariums. Et ça, c'est quand même fascinant parce qu'en plus, ces poissons se déplacent en grand, grand groupe. Parfois, ils se déplacent en se déroulant en spirale. Ils se déplacent. Alors, ce que j'ai vu, c'est des sortes de serpents assez gros aussi dans ces coins-là. J'ai vu des requins à la première plongée que j'ai faite en Australie. J'ai vu un requin tranquille, un requin gris au fond de lit, au fond de l'eau, qui dormait paisiblement. Et bon, je me suis approchée, ça m'a pas affolée. Faut pas s'affoler par les requins. Les requins, ils sont curieux, mais après, ils s'en vont en général. Donc, c'est mon premier requin. Première plongée, premier requin. Voilà.
Mais alors, ces bancs de poissons-là qui se déroulent, que vous évoquez, qui se déroulent un petit peu comme les vols des tourneaux que l'on voit quelquefois, ils sont constitués de quelles espèces?
Voilà, alors là, il y a toutes sortes d'espèces. Je ne peux pas dire vraiment les noms là parce que j'en ai tellement vu. Mais il y en a des petits, il n'y en a pas dans les grands vols des tourneaux. Comme, il n'y a pas de grands poissons, c'est vraiment souvent des petits poissons. Les plus gros bancs de gros poissons que j'ai vus, alors ça, c'est absolument fascinant. C'est pas du tout en Australie. C'est en mer Rouge, c'est vers le Soudan ou la limite entre le Soudan et l'Égypte. J'ai vu des requins-marteaux. Alors ça, c'est absolument fascinant. C'est-à-dire, vous descendez au fond de l'eau, parfois vous descendez profond. La dernière fois, je suis descendue à 30 mètres, ça suffisait. L'autre fois, je suis descendue à 50 mètres. Et là, vous attendez. Alors, pas très longtemps, parce que vous n'avez pas le droit de rester dans l'eau à 50 mètres longtemps. Mais en très peu de temps, ils sont très curieux. Vous voyez des points blancs apparaître, mais des tas de points blancs au loin. Et puis, ils s'approchent. Ce sont des animaux très élégants. Et ce sont ces requins-marteaux qui arrivent et qui vous entourent après. Mais j'en ai compté 30, 40. Ils arrivent par meute. C'est absolument fascinant, ça. Ça, c'est fascinant, surtout qu'un requin-marteau, c'est pas un petit requin, hein, c'est un grand requin. C'est un requin qui fait plusieurs mètres de long. Donc ça fait partie des grands, grands souvenirs de plongée que j'ai eus. Et j'en ai eu récemment encore en mer Rouge, au printemps dernier.
Alors là, attendez, on a fait un saut géographique considérable, puisqu'on est passé de la Grande Barrière corallienne, de australienne, à la mer Rouge. Donc vous avez plongé en mer Rouge, apparemment plusieurs fois, et vous êtes allé à la rencontre de ces requins marteaux. Vous avez évoqué aussi les profondeurs à laquelle vous rencontrez ces animaux qui sont quand même pas, vous dites qu'ils sont très élégants, moi je trouve qu'ils sont, ils ont pas l'air très sympathiques, pour en avoir vu aussi quelques-uns, non pas en plongée mais dehors. Est-ce que vraiment ça ne présente aucun risque pour les plongeurs qui vont à la rencontre de ces bestes?
Alors, les requins marteaux, non, à la connaissance des plongeurs, non. En fait, ce sont des, comme beaucoup de requins, comme tous les requins, ce sont des requins qui sont curieux, c'est-à-dire qu'ils sentent l'arrivée de l'homme, ils viennent voir, ils tournent autour et après ils s'en vont. Donc, vous remontez tranquillement, mais ça se passe très vite, hein, tout ça. Surtout que, bon, si vous êtes un peu profond, une fois que vous les avez vus 2 secondes, vont commencer à faire votre remontée petit à petit, et ils remontent un peu avec vous. Mais ils ne vont pas remonter haut parce que leur profondeur dépend de la température de l'eau. Donc, si la température de l'eau est élevée, si vous êtes au mois d'octobre, au mois d'août, au mois de. Là, il faudra aller profond. Si vous êtes en février, il n'y aura pas besoin d'aller trop profond.
Et à l'inverse, ils n'auront pas tendance à venir vous suivre dans des eaux qui deviennent beaucoup plus chaudes et à une température qui ne leur convient pas. C'est comme ça que ça se passe?
Ben, j'ai l'impression, je ne connais pas par cœur, enfin, t'as parfaitement la vie des requins marteaux, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que quand on remonte, ils s'en vont dans leur coin et nous dans le nôtre, hein, donc c'est fini, quoi, là.
Alors là, vous avez parlé de profondeur de 50 mètres. J'imagine que pour descendre et surtout pour remonter de telles profondeurs, il faut prendre un certain nombre de précautions que vous apprenez évidemment dans votre apprentissage de plongeuse. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces précautions, de ces paliers qu'il faut respecter?
Oui, alors premièrement, je regrette presque d'avoir parlé de 50 mètres parce que c'est très, très exceptionnel. J'ai plongé peut-être 4 fois dans ma vie à 50 mètres. Sinon, la plongée normale, c'est 30 mètres, hein. 50 mètres, là, il faut vraiment calculer son coup, être vraiment savoir que vous allez rester 4-5 minutes au fond, pas plus. Après, vous allez commencer à remonter. Je dirais que c'est pas classique. La plongée classique, c'est 30 mètres, et là, vous avez des procédures à suivre. Vous remontez au bout de. Vous savez que il faut pas avoir des paliers trop longs à faire, sinon vous n'avez plus d'air. Ça, c'est un problème. Il faut bien connaître ce que vous consommez comme air. Et ce que vous consommez comme air, c'est un apprentissage. Je sais que quand j'ai débuté, je consommais beaucoup d'air. On respire beaucoup trop souvent et on s'habitue petit à petit à respirer moins souvent. Il n'y a pas besoin de respirer aussi souvent. Et à ce moment-là, on consomme moins d'air, donc on peut rester plus longtemps dans l'eau, faire des plongées plus longues, sinon votre bouteille, elle est vide. Et quand la bouteille est vide, il faut vraiment être en surface.
Donc là, il faut contrôler en permanence ce qui vous reste d'air et par conséquent, gérer votre temps en fonction de ça, ce qui conditionne la durée de vos plongées et tout ça étant aussi dépendant de la manière dont vous respirez. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses à vérifier. Est-ce qu'il vous reste le temps pour regarder et admirer un petit peu le paysage et ce qui s'y déroule?
C'est tout à fait exact. Ça fait partie de l'apprentissage. On a plusieurs choses à contrôler. On a la pression dans notre bouteille d'air. Et ça, on la contrôle très souvent. Non seulement ça, mais nous plongeons au minimum 2 par 2. Et régulièrement, moi je fais signe, j'ai une amie avec qui je plonge, je suis habituée à plonger avec elle, on se fait signe pour savoir combien il nous reste d'air dans la bouteille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi ce qu'on appelle un ordinateur. Alors, c'est un tout petit truc qu'on a au poignet qui nous indique le temps de plongée, qui nous indique la profondeur maximum de la plongée, qui nous aide également en nous disant il va falloir remonter. Il va falloir remonter, vous allez avoir un palier, c'est-à-dire il va falloir rester, par exemple, 3 minutes ou 6 minutes ou 10 minutes à 6 mètres de profondeur. Puis après, il faudra rester 3 minutes à 3 mètres de profondeur. Il y a un palier qui est obligatoire, c'est le palier d'ailleurs de 3 minutes à 3 mètres de profondeur. Alors pourquoi tout ça? Comme je disais au début, c'est qu'on a des bulles d'air qu'on a dissous dans le corps. Et si vous remontez doucement, ces bulles d'air, c'est l'azote surtout qui se dissout. C'est pas parce que l'oxygène est assimilé par l'organisme. Mais l'azote, lui, est dissous sous forme de bulles. Et quand vous remontez, ces bulles rentrent en expansion, hein, la pression diminue, donc elles deviennent de plus en plus grosses. Et si elles se coincent dans votre cerveau, ben, ça aboutit à une paralysie. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elles restent petites. C'est les évacuer petit à petit. Donc c'est la raison pour laquelle il faut remonter tout doucement pour que ces bulles d'azote ne grossissent pas dans votre organisme et soient évacuées par votre respiration le plus possible, le mieux possible. J'ai un peu simplifié, mais c'est un peu ça.
Est-ce qu'il y a d'autres endroits encore dans le monde où vous avez plongé? Vous avez l'air d'avoir pris une certaine prédilection pour les mers chaudes. Y a-t-il encore d'autres endroits où vous avez plongé?
Oui, alors il y a eu le Mexique. Et alors le Mexique, au Mexique, il y a quelque chose dans le Yucatan, il y a quelque chose de très très original, ce sont les cénotes. Les cénotes, c'est très curieux, c'est un relief. Alors je crois que c'était un massif corallien, justement, c'était du corail qu'il y avait, donc c'est finalement, ça se termine en, un peu comme c'est du calcaire. Et il se trouve que la mer a baissé à un certain moment, donc les rivières sont devenues souterraines. Le corail s'est reformé par-dessus les rivières, donc vous avez tout un réseau de rivières dans le Yucatan qui est souterrain. Et par endroits, il y a des effondrements. Alors pourquoi? Bon, il y a plein de théories là-dessus. Il y a des effondrements, donc vous vous trouvez en face d'un trou, et au fond du trou, il y a de l'eau. Et l'eau est reliée à des rivières souterraines, et là-dedans, c'est des lieux de plongée tout à fait exceptionnels. Il y a, au point de vue vie, il n'y a pas grand-chose à voir, mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est une eau d'une clarté, d'une limpidité qui est absolument fabuleuse. Donc vous allez dans les rivières, et puis vous tombez sur un trou de surface, quoi, la coque, je dirais, de corail a été cassée en surface, donc vous avez un grand puits, et là vous avez la lumière du soleil qui arrive dans cette eau d'une clarté extraordinaire. C'est, les arbres qui sont autour se reflètent, vous ne savez plus si les arbres sont sous l'eau, sur l'eau, enfin ça c'est vraiment un grand souvenir aussi.
Alors ces cénotes qui sont d'origine karstique, comme vous l'avez dit, elles sont, l'eau est de quelle couleur et ça peut atteindre quelle profondeur?
Alors moi, je pense que ça peut être assez profond. J'ai des amis qui ont plongé à 30-40 mètres. Il y a certainement beaucoup plus profond, je suppose. Hein. Moi, j'ai fait des petites plongées à 15 mètres, ça me suffisait. Hein. Et l'eau est de quelle couleur? Ben alors, c'est toutes les nuances de bleu vert. Alors, quand on est vraiment dans la cénote, quand on est vraiment là, c'est noir. Hein. Donc, c'est la couleur de votre lumière. Vous avez une petite loupiote sur le front et c'est la lumière de votre loupiote sur le front ou à la main. Mais dès que la lumière du jour arrive, alors là, vous avez tous les bleus de la création. Ça, c'est... Et puis en raie, vraiment, vous voyez les raies du soleil, quoi. C'est un peu comme les raies du soleil, quoi.
Alors, jamais découvert les diadèmes et les ornements d'une princesse Maya au fond d'une cénote, puisque c'est là-dedans qu'on jetait les jeunes vierges qui étaient sacrifiées dans la religion de la civilisation Maya. Non, jamais.
Non, là vraiment pas, parce qu'en plus, c'est des lieux qui, quand même, ont été aménagés pour la plongée. Donc, à mon avis, ceux qui sont passés avant moi, si quelqu'un avait dû découvrir, c'est ceux qui sont passés avant moi, c'est pas moi. C'est relativement touristique. Mais il existe des cénotes qui sont encore, bien sûr, vues à l'heure actuelle par des gens qui découvrent des nouvelles cénotes, hein, bien sûr.
Mais alors là, on est dans l'eau douce.
Alors justement, on est dans l'eau douce, mais la mer n'est pas loin. Quand, suivant les endroits où vous plongez, si c'est au milieu du Yucatan, c'est l'eau douce. Si vous n'êtes pas loin de la mer n'est pas loin. Et alors là, il y a un phénomène très très curieux, c'est qu'il peut arriver que vous vous trouviez dans un endroit où l'eau devient complètement trouble. Mais alors, d'un trouble, c'en est inquiétant, quoi. Vous vous demandez, vous ne voyez plus rien, quoi. Enfin, vous voyez la lumière, vous êtes dans un milieu lumineux, mais totalement trouble, comme à travers des lunettes qui ne vous sont pas du tout adaptées, quoi. Et là, c'est des zones où se mélangent l'eau de la mer, qui est de l'eau salée, et l'eau douce, qui est l'eau qui vient de la... Enfin, qui est l'eau des cénotes, quoi. Donc là, vous avez les lieux de mélange qui sont des lieux très troubles.
Là, vous êtes vraiment à la marge de la lentille d'eau douce qui, vraiment sur les bordures des îles ou sur les bordures des continents, repose en équilibre précaire sur l'eau marine profonde. Et la faune, alors, que vous avez pu observer au Mexique, cette fois-ci dans la mer, si vous y avez plongé?
Ouais, alors là, alors j'ai vu des, alors dans la mer, j'ai vu des espèces de, comment ça s'appelle, d'éponges que j'avais jamais vues, des éponges énormes de toutes les couleurs, des rouges, des jaunes, des vertes. Alors là, vraiment, j'ai vu des choses très très étonnantes au niveau éponges. J'ai vu le requin bulldog, le fameux requin. Qui a tué des hommes à l'île de la Réunion. Alors là, il a eu le même comportement que tous les autres que j'ai pu voir, les longimanus, les requins gris, les requins. Enfin, j'ai vu plein de sortes de requins. C'est-à-dire que on est descendu au fond de l'eau, ils sont arrivés, ils n'étaient pas en meute, hein, j'en ai vu trois. Ils ont tourné un peu autour de nous, puis sont repartis. Mais par contre, il m'est arrivé une aventure. C'est que pendant que j'observais ces requins, qui sont des requins un peu gros, pas très élégants, c'est pas les plus beaux que j'ai vus, et bien pendant ce temps-là, il y a une énorme tortue qui s'appelle une tortue couane, qui a un diamètre qui fait 1 mètre, 1 mètre 10, sa carapace fait 1 mètre, 1 mètre 10 à peu près, qui nous est arrivée. Nous étions quatre, hein, c'était une plongée extrêmement limitée, et elle est arrivée derrière nous. Et moi, elle m'a mordu. Or, on m'avait fait mettre deux épaisseurs de combinaisons. J'avais deux combinaisons l'une sur l'autre. Cette tortue m'a mordu et je me suis retrouvée avec un bleu énorme. Et quand je dis énorme, c'est peut-être 10 cm de diamètre parce qu'elle avait une grosse gueule. Elle a voulu mordre les autres et il a vraiment fallu qu'on remonte, non pas à cause des requins, mais à cause de la tortue. Et après, évidemment, on a bien ri parce qu'aller au fond de l'eau voir les requins bulldogs et finalement se faire mordre par une tortue, c'est quand même une aventure rigolote. Donc pour moi, la tortue n'est pas du tout un animal gentil, mignon. Donc je m'en méfie maintenant.
Alors, c'est une histoire très, très amusante, enfin, qui a dû quand même vous effrayer un petit peu. Précisons pour vous, auditeurs, que la tortue couane ou kawane qu'évoque Annie, c'est quand même un animal qui peut arriver à peser 150 kilos, hein. C'est vraiment une très grosse bête, avec un bon bec corné, ce qui explique la force du pinson qu'a subi Annie. Annie, on vous écouterait pendant des heures nous parler de vos aventures. Je voulais encore vous poser deux questions, trois même. La première, c'est plonger de nuit. Ça vous est arrivé?
Ah oui, ça, à chaque fois que je fais un séjour de plongée, je plonge au moins 1 ou 2 fois de nuit. Oui, je fais des plongées de nuit. C'est des plongées qui font peur, hein. Ça fait peur parce que là, vraiment, enfin, bon, toujours pareil, on a nos repères, on a notre boussole. Alors, on plonge jamais très profond, on plonge pas dans des endroits où il y a beaucoup de courant. Quoique aux Maldives, j'ai plongé dans un endroit, j'ai fait une plongée de nuit extraordinaire en plein courant. Mais en général, c'est des coins calmes, c'est des coins bien balisés. Le bateau est super éclairé, donc normalement, dès que vous mettez la tête hors de l'eau, vous repérez votre bateau, vous allez vers votre bateau. Mais alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on ne voit pas les mêmes choses que dans le jour. Il y a un certain nombre d'espèces qu'on voit la nuit, qu'on voit pas le jour, qu'on voit pas bien la nuit, qu'on voit pas bien le jour qui sont intéressantes.
Je voudrais que vous évoquiez maintenant, avant de nous quitter, une dernière chose. Au cours de vos plongées, est-ce que vous avez remarqué des choses qui vous ont choqué, qui montrent à quel point le milieu océanique est abîmé par les activités humaines, de toutes sortes de façons, soit par le rejet de déchets, soit par des manifestations indirectes du réchauffement climatique dans la mesure où l'on croit à son origine anthropique.
Alors, bon, il est certain que moi je fais du tourisme, hein. Donc on ne va pas me faire plonger là où il y a les sacs en plastique. Ce que j'ai pu voir quand même, c'est aux Maldives, les coraux morts. Ces coraux qui tombent en masse comme un château en ébouli, quoi, comme un château qui s'est éboulé. Et alors, ces courants morts, on le sait, l'origine, c'est un réchauffement des courants chauds qui sont passés par là. Le corail est très, très sensible à la température. Ces coraux, en fait, ils sont en train de revivre aux Maldives. Alors, parce que le courant, il est passé dans l'autre sens, j'en sais rien. Mais j'ai vu réapparaître de nouveaux coraux aux Maldives. Mais c'est un paysage extrêmement triste. Là où j'ai vu une dégradation au fil des années, parce que j'y suis allée plusieurs fois, c'est en Australie. Et là aussi, j'ai vu mourir des coraux. Alors, c'est très curieux parce que c'est local, c'est à certains endroits, c'est pas à d'autres. Ils ne connaissent pas vraiment l'origine. La pollution, j'y crois pas trop à cet endroit-là parce que c'est un endroit où la terre n'est pas très habitée. Il y a peu de villes, c'est plutôt des gros villages. Je vois pas à 60 km sur plusieurs centaines de kilomètres comment la pollution arriverait. Mais enfin, c'est peut-être possible. C'est peut-être aussi la température. Et ça, c'est triste d'avoir vu un paysage corallien magnifique se dégrader et le voir devenir tout gris. Parce que le corail, à ce moment-là, il devient tout gris. Il se casse à la moindre tempête, donc c'est vraiment des éboulis. Ça se présente sous forme des éboulis. Alors, ce qui m'a beaucoup surpris, aux Maldives par exemple, c'est qu'il reste quand même beaucoup de poissons. Moi, je croyais que le poisson se nourrissait de corail. Ben, faut croire qu'il arrive à se nourrir quand même, et c'est très poisson.
Au moins certaines espèces, oui. Annie, y a-t-il une limite d'âge pour la plongée ?
Moi, je me pose sérieusement la question parce que j'arrive à peu près des 70 ans et je m'étais dit à 70 ans, j'arrêterai. Et puis tout le monde me dit, mais non, pourquoi t'arrêterais ? T'es en forme, tu vas continuer. La limite d'âge, c'est pas qu'il y a une limite d'âge. J'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'il faut plonger de moins en moins profond, de moins en moins longtemps. Il faut être raisonnable. Je crois que c'est ça la limite. Mais ce qu'il y a, c'est que aussi la bouteille, c'est lourd. Et moi, je la trouve de plus en plus lourde, alors qu'il paraît qu'elles ont toujours le même poids. Donc, je crois que ma limite, elle sera là. Le jour où je ne porterai plus la bouteille, j'arrêterai.
Annie, merci beaucoup pour ces observations passionnantes. Merci beaucoup pour votre optimisme mesuré. Et nous vous souhaitons encore de nombreuses plongées tout aussi agréable et enrichissante.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.